Vous êtes sur RTL.
Il est 8h du matin.
RTL Matin, Stéphane Carpentier, le journal de Mélina Fachin.
Bonjour Mélina.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toute l'actualité en ce samedi matin, l'incendie de Notre-Dame lundi a stupéfait la France entière, mais pour certains, ce n'était malheureusement pas une surprise.
En Dordogne, un père et son fils spécialisés dans les travaux en très haute altitude ont installé le paratonnerre au sommet de la cathédrale il y a 6 ans. À l'époque déjà, ils avaient constaté que la flèche était en très mauvais état. Ils avaient d'ailleurs alerté les autorités. Alors quand ils l'ont vu s'effondrer lundi soir, ils ont été particulièrement émus, Denis Grandjou.
Oui, Anthony et son père Didier n'arrivent pas à chasser de leur tête les images terribles de l'incendie.
Le moment de l'effondrement de la flèche, ça a été un effondrement personnel aussi, puisque c'est tout un pan de l'histoire, d'accord, mais c'est notre histoire aussi, à moi et mon père, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Quoi.
Pendant 3 mois, ils ont travaillé presque jour et nuit au pied de la flèche de Notre-Dame.
On a enlevé 300 kg de plomb, 50 kg d'armature en cuivre et 40 kg de rouille. Et on a dit qu'il était grand temps de faire des travaux de grande ampleur.
Pour ces deux spécialistes, unanimement reconnus pour la qualité de leur travail, c'est l'incompréhension qui domine pour expliquer cet incendie.
C'est du chêne qui a des siècles, il ne prend pas feu tout seul. Hein.
Des sections de bois comme ça, il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie pour les embraser.
Quant à l'échéance de la reconstruction de Notre-Dame en 5 ans...
À moins de faire une verrière en charpente métallique ou de l'imprimer en 3D, je ne vois pas comment ça serait faisable. Même si on y injecte des milliards, c'est pas en empilant des billets qu'on fait une charpente.
Malgré tout, Anthony et son père se sont portés volontaires pour travailler à nouveau sur le sommet de Notre-Dame dès qu'on fera appel à eux.
Reportage de Denis Grandjou en Dordogne pour RTL.
Les gilets jaunes dans l'actualité. Gilets jaunes qui lancent un nouvel ultimatum aujourd'hui.
C'est l'acte 23 de leur mouvement. À Paris, 2 manifestations ont été autorisées. L'une qui partira de Bercy à 12h30 pour rejoindre la place de la République. L'autre de Saint-Denis à 13h direction Jussieu, une grande traversée de la capitale. Sur les réseaux sociaux, des gilets jaunes ont également appelé à converger dès ce matin vers la gare du Nord ou encore la place du Châtelet. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, s'attend à une journée tendue. Il est hier soir votre invité Stéphane.
La préfecture considère que c'est une journée à très haut risque. Il y a 2 manifestations déclarées qui se croiseront. Mais le risque est ailleurs. Le risque, c'est comme d'habitude celui de l'infiltration par des casseurs. Et donc, évidemment, tous les pouvoirs publics, la préfecture de police, les agents de la ville de Paris, la maire de Paris pilotera la cellule de crise à l'hôtel de ville, seront mobilisés pour préparer au mieux cette journée. Il y aura beaucoup de forces de l'ordre mobilisées, des conseils très stricts relevant soit de réquisition de la préfecture de police, soit de conseils aux commerçants ont été transmises. Il faudra à la fois vivre normalement, mais à la fois être vigilant sur les parcours. C'est vrai que ça devient pénible d'avoir à gérer ces situations. C'était un peu plus calme ces derniers samedis. On espère vraiment ne pas renouer avec les pires journées qu'on a connues. En tout cas, on sera mobilisés pour.
60 000 gendarmes et policiers seront déployés dans toute la France. Des manifestations sont également prévues à Toulouse, à Bordeaux ou encore à Montpellier. Et c'est jeudi qu'Emmanuel Macron fera ses annonces après le grand débat national. Il avait dû les repousser, vous le savez, à cause de l'incendie de Notre-Dame lundi. Certaines mesures ont déjà fuité. Baisse d'impôts, réindexation des petites retraites sur l'inflation ou encore suppression de l'ENA. Rien pour l'instant, ou presque, concernant le climat. Chez nos confrères de Libération ce matin, l'ancien ministre de l'écologie Nicolas Hulot demande au président de tenir compte de toutes les manifestations pour le climat qui ont eu lieu ces dernières semaines. Denis Baupin a perdu hier son procès. L'ancien député écologiste avait poursuivi des médias et des femmes qui l'accusaient d'agression sexuelle en diffamation. Tous ont été relaxés. Et vous serez très nombreux sur les routes aujourd'hui avec le week-end de Pâques à rallonge et les vacances pour les 3 zones. Bison futé, voie orange sur toute la France dans le sens des départs. Soyez donc très prudents.
L'ambassadeur de France aux États-Unis n'aura pas attendu bien longtemps avant de dire tout haut ce qu'il pense de Donald Trump.
Gérard Haro est à la retraite officiellement depuis hier et à peine ses cartons faits, il a accordé un entretien au quotidien britannique The Guardian. Le moins que l'on puisse dire, Daniel Hoffman, c'est que le désormais ex-diplomate n'a pas sa langue dans sa poche.
Capricieux, imprévisible, mal informé, autant de piques lancées par Gérard Haro à Donald Trump, un président américain que l'ex-ambassadeur français n'hésite pas à comparer à Louis XIV, avec une administration semblable à la cour du roi Soleil, soumise aux humeurs fluctuantes d'un dirigeant vieillissant. Ça, c'est pour la personnalité de de Donald Trump. Sa politique étrangère en prend aussi pour son grade, en particulier le slogan « L'Amérique d'abord ». Pour Gérard Araud, l'Amérique d'abord, c'est surtout une Amérique seule, sans alliés, recroquevillée sur elle-même. Le diplomate français ne trouve pas que des défauts. Au locataire de la Maison-Blanche, il explique par exemple que Trump a eu raison de dénoncer les accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Mais les propos dans leur ensemble sont acerbes. Il faut dire que Gérard Araud n'est pas un adepte de la langue de bois diplomatique. Dès le soir de la victoire de Trump, en novembre 2016, il avait dit être pris d'un vertige dans un message publié sur Twitter et supprimé dans la foulée. Twitter, un réseau social que Gérard Araud affectionne particulièrement, comme un certain Donald Trump.
Daniel Hoffman aux États-Unis pour RTL.
En tennis, Mélina, les Françaises sont prêtes à en découdre avec les Roumaines.
C'est aujourd'hui la demi-finale de la Fed Cup à la Kind Arena de Rouen. Face aux Bleus, la redoutable Simona Halep, numéro 2 mondial et victorieuse l'année dernière à Roland-Garros. Kristina Mladenovic l'affronte dès cet après-midi à 14h. Julien Beneteau, le capitaine de l'équipe de France, part confiant.
Demi-finale de Fed Cup, c'est génial pour les filles de pouvoir jouer en France. Puis en face, voilà, une équipe de Roumanie qui vient avec sa leader, Simona Halep, numéro 2 mondial. Donc c'est vrai que sur le papier, ça, c'est costaud. La salle va être pleine aussi, ça c'est vraiment bien. Bon, on sait qu'il y aura énormément de Roumains aussi. J'ai ma meilleure équipe parce que j'ai les 5 premières Françaises avec moi. Elles sont bien dans leur tennis. Ce qu'elles ont montré à l'entraînement était vraiment intéressant et de qualité. Elles sont toutes montées en puissance au fur et à mesure des jours. Et c'était vraiment agréable à voir et à ressentir. Donc je suis très heureux. Très chanceux. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont toutes prêtes à rentrer sur le court ce week-end et ça, déjà, c'est le plus important.
Julien Beneteau au micro RTL d'Isabelle Langer. Et on vous fera vivre évidemment cette demi-finale de la Fed Cup tout au long de l'après-midi sur RTL dès 14h. Il y aura du foot également aujourd'hui. La suite de la 33e journée de Ligue 1 avec 4 matchs à l'affiche. À 17h, Guingamp reçoit Marseille. Et à 20h, Nîmes affronte Bordeaux, Strasbourg, Montpellier et Nice, Caen. Trois rencontres à suivre dans le multiplex RTL L'Équipe dès 19h30. Hier soir, Dijon l'a emporté 3-2 face à Rennes et Lyon a enfin renoué avec la victoire 2-1 contre Angers. Allez, on se réveille en musique.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Et bien écoutez, c'est du coréen, figurez-vous. Je me disais que vous ne chantiez pas trop là. Le groupe, c'est le groupe de K-pop BTS et son tube Boy With Love. Je vous avoue que je découvre aussi un peu ça ce matin. Mais visiblement, je suis la seule parce que leur clip a été vu plus de 170 millions de fois en une semaine. Et c'est la première fois qu'un groupe sud-coréen se hisse directement à la première place des ventes de disques au Royaume-Uni. Allez, on écoute un peu.
La K-pop, donc ouais. Fameux groupe BTS qui sera au Stade de France hein,
exactement,
au mois de juin.
Si ça vous intéresse, Stéphane, 7 et 8 juin.
On se prend des places, on y va.
Allez, c'est parti.
On sera jeunes pour une fois, c'est pas mal. Toute l'info, Mélina Fachin, elle revient à 9h pour tout vous dire. Vous allez cliquer sur rtl.fr, vous n'hésitez pas. On salue Frédéric qui nous écoute à Valenciennes. Il est au volant de son bus actuellement, il a un ciel bleu au-dessus de lui. Anne-Sophie, grand soleil au réveil dans les Yvelines. Stéphanie, grand soleil dans le Gard actuellement. Et puis Marie-Josée dans Loiret à Briard, il y a 13 degrés, un orage qui approche. Toutes vos infos, vous êtes les bienvenus, les SMS 64 900 code matin et puis les réseaux sociaux à disposition.
Et c'est le moment de...